Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter. Le 18-20.
Ce soir, l'escale sonore d'un jour dans le monde est pour le Bangladesh, en même temps que le pape, qui n'a toujours pas prononcé le nom Rohingya, mais qui en appelle à la communauté internationale. Les camps du Bangladesh, nous y allons, et c'est dans un instant, 18h45. Le retour sur les épisodes précédents. George Bush Junior, qui fait presque figure d'enfant de cœur face à Trump aujourd'hui. 18h50, le vrai du faux de l'Europe est Delphine Simon. Vous verrez que Bruxelles est parfois moins procédurier, que la France, parfois pleine de paperasse. Mais avant, dis-moi ce que tu manges et je te dirai dans quelle partie du monde tu vis.
Fabienne Saint-Ès, un jour dans le monde.
Hello, can I help you?
Yeah, can I get the double quarter pounder with cheese meal?
Large or super size?
I think I'm gonna have to go super size. Look at that coke.
Vous vous en souvenez peut-être de ce documentaire parce qu'il avait fait grand bruit. Ça s'appelait Super Size Me.
Morgan Spurlock.
Exactement, l'histoire d'un documentariste américain qui se nourrissait de hamburgers exclusivement et qui ne refusait jamais quand on lui demandait de doubler la dose pour seulement $1 de plus. Ça a été la démonstration de ce que pouvait être la malbouffe. Bonjour à vous, Claude Fischler.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, puisque nous sommes dans cette journée alimentation sur Inter aujourd'hui et que l'on s'interroge sur ce que nous avons dans nos assiettes. On a eu envie d'aller faire un tour des assiettes, justement, puisque la nourriture est aussi affaire de géopolitique, parce que la mondialisation heurte peut-être les cultures alimentaires, parce que peut-être qu'elle a changé nos habitudes. On va parler de standardisation aussi, puis se demander si tenir les ventres, c'est aussi encore tenir les peuples, et j'ai peur de connaître la réponse. Tout à l'heure, je disais, Claude Fischler, dis-moi ce que tu manges, je te dirai où tu habites dans le monde. Est-ce que c'est toujours vrai, finalement? Ou est-ce qu'en se globalisant, le monde s'est aussi homogénéisé, y compris dans sa nourriture?
C'est quand même un peu vrai, c'est même très vrai, et c'est quand même un peu insuffisant.
D'accord.
Comme dirait notre président, en même temps. Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a un processus d'homogénéisation avec, par exemple, j'étais récemment en Malaisie et je ne voyais que des pizzerias.
J'allais vous poser la question. Pizza, hamburger, name, langage international.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur toute la planète, vous avez de l'asiatique, du pseudo-italien ou de l'ex-italien, dont les Américains ont complètement oublié que c'était italien d'ailleurs, et puis du hamburger ou du burger, maintenant, comme on dit ici. Et si vous commandez sur Internet, vous avez le choix entre indien, chinois, pas tellement chinois d'ailleurs, mais et puis d'innombrables pizzas et d'innombrables burgers, en France même. Je veux dire, bon, ça c'est évident, ça saute aux yeux. Maintenant, d'un autre côté, si on raffine un petit peu, on s'aperçoit que les versions locales de ces cuisines d'ailleurs sont subtilement ou massivement différentes. Vous savez que les Chinois de France n'ont pas le même goût et la même structure que les Chinois des États-Unis. Ça tient aux différences d'origine. Les Japonais français n'ont pas grand-chose de japonais parce que la plupart du temps, ils sont tenus par des Chinois.
C'est vrai que le sushi japonais est moins goûtu finalement que le sushi chez nous, parce que culturellement et même religieusement, on va dire, il fallait à la base que la nourriture ne soit pas trop, n'ait pas trop de goût, en fait.
Alors, c'est vrai que la cuisine japonaise cultive les saveurs plus que subtiles. Mais là, je crois qu'on nuance un petit peu, d'autant plus que les Japonais de Paris ou d'ailleurs en France, ils sont pris pied sur le terrain grâce à des brochettes.
Mais alors justement,
le poisson cru n'est pas tout de suite rentré dans les mœurs.
C'est vrai, chez nous en tout cas, et dans d'autres pays aussi. Moi, ce qui me fascine quand même, quand on se dit qu'on retrouve les mêmes choses un peu partout, même si effectivement, je vous entends, chacun a gardé sa spécificité, c'est que on finit par avoir le même palais, en fait, alors qu'à la base, on n'a pas le même palais normalement, d'un pays à l'autre, d'une culture
à
l'autre.
Là, si vous voulez, ça c'est la deuxième partie de l'en même temps. Je pense qu'en même temps, c'est insuffisant parce qu'on se rend compte qu'il y a des influences diverses. Par exemple, c'est vrai que dans des pays, par exemple de l'hémisphère sud, où on mange traditionnellement l'aliment de base est du manioc, par exemple, on voit, c'est le cas en Afrique, dans plusieurs pays, on voit que le riz s'est installé depuis maintenant pas mal de temps. Et évidemment, ça a des conséquences politiques, économiques et culturelles et sociales au quotidien. Ça coûte plus cher, c'est différent, mais en même temps, c'est dans un usage peut-être plus facile, ça nécessite moins de préparation, ça change des choses du point de vue des femmes qui préparent le matin, vous savez, quand il s'agit de piler quelque chose comme ça et que ça vous prend toute la matinée. C'est bon. Alors, on voit ces changements-là, on voit que ça agit sur l'équilibre financier des pays concernés. Par exemple, là, on n'est plus dans l'hémisphère sud, mais au Mexique, par exemple, c'est la même chose avec le maïs. Traditionnellement, l'alimentation à base de maïs, de plus en plus de produits panifiables, c'est-à-dire de blé et de céréales. Là encore, ça pèse sur la balance des paiements. Donc, on voit bien que tout ça, ça fait des changements. Il y a des choses inverses comme ça qui se produisent. Mais puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'on voit bien que entre des pays de niveau de développement analogue, prenez ce qu'on appelle les pays qui relèvent de l'Occident, on parle d'un Western diet, d'un régime alimentaire occidental. Et en effet, les nutritionnistes disent quand un pays commence à monter dans son statut économique, son niveau de vie,
il
change de culture culinaire et il adopte graduellement un système dans lequel, disons, on mange plus de viande, plus de sucre, plus de gras, plus de sel, moins de produits traditionnels, plutôt moins de légumes, des choses comme ça, etc. C'est globalement vrai, mais quand on regarde dans le détail, il y a des telles différences qu'on se dit qu'il faut trouver quelque chose pour les expliquer. Par exemple, sur les conséquences de ce régime occidental, soi-disant occidental, moi, je veux dire, mon dada, c'est de dire, regardez les États-Unis et la France. Dans des enquêtes que nous avons faites, on avait un échantillon de femmes aléatoires dans une ville américaine typique, et puis l'équivalent, 800 de chaque côté, à Rennes. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On avait le poids et la taille. Il y avait 35% d'obèses à Columbus, Ohio, et il y en avait moins de 8% en France. Alors, aux États-Unis, c'est à peu près le pourcentage national. En France, c'est inférieur au pourcentage national. Mais dites-moi lequel des deux est le régime occidental. Comment est-ce qu'on explique les différences de 1 à 3 ?
Donc, ce n'est pas une question de contenu, c'est une question de culture,
en fait. C'est en grande partie une question de modulation par la culture. Mais la culture elle-même, elle est modulée et changée par ses contraintes économiques et ses changements. Donc, il y a un processus, en effet, d'homogénéisation. Mais je dirais qu'en même temps, il y a un processus de diversification, parce qu'on a des produits qu'on ignorait jusqu'à il y a quelques années, qui nous sont devenus familiers. Regardez les spécialités, alors on est dans le haut de gamme, bien entendu, les spécialités qui nous viennent des pays les plus divers. On a des modes qu'on n'avait pas auparavant.
Bien sûr, et le retour de certains produits, d'ailleurs, vous parliez du Mexique tout à l'heure, je pense au quinoa, par exemple, des choses qu'on avait oubliées,
qu'on avait oublié ou qu'on n'avait jamais connu. Et puis on découvre dans les modes, ce qui est très frappant à Paris, c'est que vous voyez apparaître il y a peu de temps la burrata, qui est une version un petit peu recyclée de la mozzarella. Je ne veux pas dévoiler des secrets.
Non, non.
Et la burrata se répand à vitesse explosive, comme ça. Et ensuite, vous voyez des versions moins chères, beaucoup plus industrielles. Donc, il y a ce processus diversification, homogénéisation. Il est simultané.
Et là où je vous suis, c'est que l'Inde, aux dernières nouvelles, n'a jamais cessé d'être végétarienne, y compris en entrant dans le club des émergents,
voilà,
on va dire.
Voilà, bon, c'est un très bon exemple. En effet, quand vous regardez le processus dit de transition nutritionnelle dont je parlais tout à l'heure en Inde, ben, la forme, ce qu'on trouve, est complètement différente. Parce que justement, là, pour des raisons religieuses, culturelles et autres, la consommation de viande n'augmente pas, ou alors c'est pas la même viande, on est plus dans le poulet ou autre chose. Et le végétarisme progresse dans des catégories sociales, dans des castes, si vous voulez, qui n'étaient pas concernées par le végétarisme traditionnellement, tout simplement parce que c'est chic à l'occidental.
Mais est-ce que mondialisation quand même est synonyme de malbouffe, ou pas, quand même à un moment? Parce qu'on a beaucoup dit aussi que les Chinois devenaient obèses, par exemple, qu'il y avait une partie des populations qui n'avaient jamais eu affaire à ce type de malbouffe-là, qui était en train aussi de changer, y compris physiquement.
Vous savez, simultanément, en Chine et dans d'autres pays, en Afrique, c'est documenté, vous avez simultanément des carences alimentaires, des carences nutritionnelles, de la malnutrition et de l'obésité. C'est-à-dire que l'obésité, ça va être un phénomène qui, dans les villes, va toucher les catégories sociales les plus défavorisées, comme c'est le cas dans le monde occidental. Et puis, dans la partie rurale de ces mêmes pays, c'est l'inverse. C'est les riches qui sont encore dodus et les pauvres qui sont maigres, malades et frappés par les parasitoses.
Claude Fischler, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient changé dans les cultures. Vous parlez du manioc qu'on avait transformé le plus souvent en riz. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où, en gros, pour caricaturer un peu, on fait du blé, du riz, parce que c'est tellement plus simple. Est-ce que ces changements-là, vous parliez d'un changement de stabilité, y compris politique, lorsque ces changements-là interviennent. Je vous pose la question parce que, souvenons-nous des émeutes de la faim 2007-2008, c'était aussi parce que les prix de ces denrées-là avaient fortement augmenté, que ceux qui même les produisaient ne pouvaient plus les acheter. Est-ce que ça veut dire que cette homogénéisation-là, parfois, amène à ce genre d'excès, en fait?
C'est ce qui s'est passé il y a quelques années, en effet, et on voit bien que les tensions sur les prix... Bon, vous savez, il y a une espèce de présupposé implicite comme ça, c'est que l'individu est maître de ses choix en matière d'alimentation. Ça nous concerne aussi bien ici que la vision qu'on a ailleurs. Mmh. Donc on explique aux gens ce qu'il faut qu'ils mangent et ce qu'il ne faut pas qu'ils mangent, et on part du principe que la décision lui appartient. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. J'étais aujourd'hui à une réunion sur les fruits et légumes, et on voit que la consommation de fruits et légumes a plutôt tendance à baisser. Elle a tendance à baisser en dépit du fait que le public en France et dans le monde occidental a un préjugé favorable, plus naturel, en faveur des fruits et légumes. Mais pourtant, alors il y a deux choses. C'est qu'on a peur de la contamination par les pesticides, et surtout on considère que c'est moins pratique, il faut faire la cuisine, il faut éplucher, on ne sait pas très bien comment les utiliser, et puis il y a la contrainte de prix. Donc, contrainte de temps, contrainte de prix, voilà des choses qui n'apparaissent jamais, et on se demande pourquoi les individus ne prennent pas la bonne décision.
Je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore que tenir les ventres, c'est tenir les peuples?
Bon, est-ce que ça n'a pas été quand même assez vrai pendant très longtemps?
Mais ça l'a été, mais ça l'est probablement encore quand on restreint l'accès à l'eau. Restreindre l'accès à l'eau, ça veut dire restreindre l'accès à arroser les cultures. Ne pas arroser les cultures, ça veut dire créer une famine. Il y a mille manières.
L'eau, c'est l'arme suprême, je suppose. Mais regardez, tenir les ventres. Nos ventres ne sont pas tellement affamés ici en Occident. Néanmoins, est-ce qu'on tient les esprits tant que ça? Je pense qu'il y a une tension très très profonde dans nos sociétés qui s'exprime parfois dans la vie politique.
Est-ce que vous pensez, vous, le sociologue, qu'à terme, et à un moment, zéro faim, j'allais dire, plus de faim dans le monde, est quelque chose qu'on peut atteindre, qui est possible?
C'est un objectif dans les Sustainable Development Goals des Nations Unies et des organisations de la FAO, etc. C'est-à-dire réduire la faim, zéro faim, c'est une de ces SDG, comme ils disent dans leur jargon. Et puis, il faut dire quand même aussi qu'on a beaucoup progressé de ce côté-là. Même s'il reste 800 millions ou 1 million et quelques de personnes, 1 milliard et quelques de personnes qui souffrent de la faim et 800 millions qui seraient obèses, on est toujours dans ce déséquilibre, dans cette dysnutrition. On a fait des progrès, mais les progrès qui restent à faire sont vraiment très très intimidants et très considérables.
Et qui ne sont pas forcément dans les mains de ceux qui produisent, mais dans les mains de ceux qui dirigent, encore une fois, non? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne sais pas si c'est dans les mains de ceux qui dirigent, il faudra faire pression et les orienter pour qu'ils prennent les bonnes décisions, mais ça c'est extrêmement... aléatoire.
Une dernière chose, Claude Fischler, est-ce qu'il y a, selon vous, et pas seulement dans nos pays occidentaux, pardon, je vais mettre des guillemets, un soft power de la nourriture? Est-ce que c'est une manière aussi, je veux dire, quand on importe du champagne, on n'y va pas que pour le champagne, on y va aussi pour amener quelque chose d'autre, et c'est pas vrai, ça n'est pas vrai que pour nous, en fait.
C'est un soft power pour la France très important. Nous avons une image, et pour nous-mêmes, nous représentons l'alimentation, la nourriture, le repas, le partage de l'alimentation, de la nourriture, comme le cœur de la vie, de la sociabilité. Pour nous, c'est absolument fondamental. Si vous allez en Finlande, c'est pas ça qui est très important. Ça serait plutôt le sauna. Mmh. C'est là qu'on socialise. Mais chez nous, il y a vraiment clairement quelque chose qui se passe autour de la table.
Absolument. Claude Fischler, tiens, ce sera la dernière question, puisqu'on va en parler tout à l'heure dans le téléphone sonne et qu'on se posera la question de savoir ce qu'on aura dans notre assiette dans 20, dans 30, dans 40 ans. Comment vous la voyez, vous, l'assiette dans 20, l'assiette mondiale, dans 20, dans 30, dans 40 ans?
Dans 20, dans 30, dans 40 ans, comme vous y allez, mais dans quelques années, d'ores et déjà, on voit qu'il y a il y a tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a une revendication, par exemple, de localisme, de bio, la méfiance des productions massive traditionnelle. Et puis en même temps, il y a des gens en Californie ou ailleurs qui développent des produits qui sont censés remplacer la nourriture.
La food tech, entre autres.
Vous avez, on ne va pas faire de publicité, mais il y a un produit qui a été le premier qui s'appelle Soylent, qui est une poudre. Vous la diluez et vous avez tous les nutriments, d'après les producteurs, qui sont nécessaires à votre alimentation de tous les jours. Et quand on demande au promoteur, qui est un type assez extraordinaire de ce produit, s'il n'a pas de temps en temps le regret des bonnes bouffes entre copains, il répond « Je n'ai rien contre l'alimentation récréative
». C'est absolument terrible, mais le sociologue que vous êtes, elle a déjà évoqué, d'ailleurs on aime se mettre à table dans plein de sociétés, y compris la nôtre. On n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore dans Soleil, ni dans Soleil Vert. On avait une...
Soylent, c'est en souvenir de Soylent Green, c'est-à-dire que c'est assez gonflé comme choix de marque.
Donc Soleil Vert, il y avait une vision dans les années 70 de ce que serait la nourriture de demain partout dans le monde, c'était celle des petites pilules, parce qu'on était à bout des ressources. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même une vision qui est beaucoup plus positive, quand même, même s'il y a de l'inquiétude chez chacun.
Je ne sais pas si c'est positif, mais l'argument des promoteurs de ces aliments qui substituent, qui remplacent les aliments, c'est de dire, vous pourrez travailler plus, vous pourrez perdre moins de temps, vous pourrez dépenser moins, $54 au lieu de 400 par mois, c'est chiffré, et donc, voyons, soyez rationnels. Et puis, si vous avez besoin de vous distraire de temps en temps, vous pouvez toujours aller
normalement,
un repas au restaurant.
Ce sera la fête. Vous avez
c'est
testé
ça son discours.
Vous avez déjà testé Claude Fischer? Moi, je serais assez curieux.
Eh bien, j'ai testé
fait.
Une fois et j'étais incapable de le tester une deuxième fois.
Mais parce que c'était pas bon
Mais c'est pas ça. Ça m'a bien satisfait. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça bon.
Ouais.
Mais la fois suivante, quand pour jouer le jeu, il fallait en reprendre, j'en ai été incapable.
Eh ben, écoutez.
Nausée m'a pris.
Bravo. Bravo, monsieur Fischer.
Non, c'est pas bravo, c'est comme ça. C'est biologique.
C'est biologique. Et ben voilà. Merci beaucoup, Claude Fischer, directeur de recherche émérite au CNRS. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde dans les camps Rohingyas du Bangladesh, alors que le pape est à Dhaka en ce moment. Retour sur les épisodes précédents. Olivier Poujade avec un peintre.
Oui, un peintre, mais qui était président, et un président va-t-en-guerre. Donc on va parler du 43e président américain, George W. Bush, du président va-t-en-guerre à l'artiste repenti.
Et Delphine Simon sera là aussi pour le vrai du faux de l'Europe. Vous verrez qu'on parlera d'échelle pour ceux qui récoltent de fruits, et vous verrez que finalement l'Europe n'est pas la plus embrouillée dans ses réglementations. Allez, Sharon Jones et The Dap Kings.
It's a matter of time. Oh yeah.
Sharon Jones and the Dap Kings, Matter of Time, sur France Inter. Power Hit Radio.
Magic FM. Terra Natura. Desservi Prisfo. 60 Minutes.
Florence Paracolos, pliée sous les radars, dans les faux plis de la planète, pour nous rapporter ce que vous n'avez pas vu ni lu ailleurs. Et en cette journée de l'alimentation, tiens, puisqu'on sort de cette interview, Florence, nous voilà au Venezuela.
Là-bas, on a faim, mais faut pas le dire. La preuve, c'est le sort que vient de réserver la Fédération de football à son entraîneur le plus titré, sélectionneur de l'équipe féminine des moins de 20 ans, Kenneth Zeremeta. Et viré quelques jours après avoir décroché la médaille de bronze aux Jeux bolivariens. Les filles auraient pu faire mieux, seulement voilà. Il faut dire la vérité, les joueuses souffrent de malnutrition sévère. Ce sont les résultats des tests médicaux qui l'attestent. Ça me fait beaucoup de peine. Ces filles sont des héroïnes, dit-il. Et le voilà sanctionné pour avoir dit la vérité le premier. Les footballeuses ont faim, les athlètes ont faim. Mais personne n'en parle pour ne pas finir comme Zeremeta, dit un journaliste sportif. La malnutrition s'étend au Venezuela qui n'a plus que son pétrole à vendre et encore de moins en moins cher. 1 300 000 personnes sous-alimentées dans le pays selon une experte en santé publique et 6 enfants par semaine qui meurent de malnutrition selon les ONG. Dans le pays le plus riche d'Amérique latine il y a 15 ans, avec son chômage et son inflation, il est aujourd'hui en tête du Misery Index de Bloomberg, l'indice de la misère.
Allez, direction maintenant la Russie, Florence, où l'on reparle de l'assassinat des Romanov.
Énigme vieille de 100 ans, le tsar Nicolas II, son épouse et leurs 5 enfants exécutés par des bolcheviks à Ekaterinbourg. Comment ? La question demeure, alors que des restes de leurs dépouilles ont été retrouvés dans les années 90-2000. Pour y répondre à cette question, une commission spéciale officielle est créée, réunissant des historiens et des membres du clergé orthodoxe, comme cet évêque qui explique que l'Église n'a pas encore de théorie officiellement arrêtée, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les versions de l'assassinat. Les Romanov ont-ils été décapités, brûlés vifs ou dissous à l'acide, ou bien ont-ils été victimes d'un meurtre rituel? Voilà les hypothèses officiellement avancé. Meurtre rituel, c'est l'expression consacrée pour parler d'un vieux mythe antisémite. C'est Benoît Vitkin qui le raconte dans lemonde.fr, selon lequel des juifs tuent des enfants chrétiens pour boire leur sang ou faire du pain azim. La théorie a prospéré au temps des pogroms. La voilà remise au goût du jour, associée à l'idée que les bolcheviks d'Ekaterinbourg auraient été juifs. Le confesseur de Vladimir Poutine, d'autres religieux et les milieux nationalistes y croient dur comme fer. Un exemple choquant d'ignorance médiévale. S'est insurgé un représentant de la communauté juive de Russie.
Allez, c'était l'une des dernières idoles du cinéma égyptien. Shadia est morte cette semaine, elle avait 86 ans.
Shadia, celle qui chante en arabe, icône de l'âge d'or des studios Masr, le Hollywood égyptien, qui exporte ses films dans tout le Maghreb et jusqu'au Liban dans les années 50-60. On la voit et on l'entend partout à l'époque. Shadia chante avec les plus grands, joue dans une centaine de films. Elle aura 3 maris avant de revêtir le hijab il y a 30 ans et de se consacrer à la prière, parcours à l'image de son pays. L'une de ses chansons, « Ô Égypte, ma chérie », sera reprise par des milliers de jeunes sur la place Tahrir en 2011. Ya Habibti, Ya Masr.
Ouais. Voilà, ça met le studio un peu en joie après voilà. Les choses terribles que vous nous avez racontées
juste
avant.
Non, mais c'est une vie comme, comme l'image de son pays.
Voilà. Merci beaucoup, Florence Paracolos. Revenez demain ou lundi, peut-être, dans Un jour dans le monde.
France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde.
Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène ce soir au Bangladesh. Au Bangladesh, donc, dans un de ces camps de réfugiés Rohingyas. Le pape est au Bangladesh aujourd'hui. Vous savez qu'il s'est débrouillé depuis le début de cette visite dans cette région du monde pour ne pas parler, pour pas prononcer le nom de Rohingya. À Dhaka aujourd'hui, il ne l'a pas fait non plus, mais il réclame des mesures décisives, dit-il, pour les réfugiés. 620 000 hein, Rohingyas, il faut le rappeler quand même, qui ont dû quitter la Birmanie. Le pape n'ira pas dans les camps que vous entendez derrière nous. Mais nous y allons, nous, grâce à vous, Sébastien Farcy, bonsoir.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Bonjour Sébastien, vous nous emmenez donc dans l'un de ces camps montés à la hâte pour accueillir l'exode la plus rapide, la plus terrible de ces dernières années.
Une grande baraque en tôle ondulée a été installée à côté d'un puits à Baloukali 2, l'un des plus grands camps de réfugiés Rohingyas. À l'intérieur, 200 orphelins coiffés d'une toque musulmane sont assis à même le sol et lisent distraitement le Coran. Ce sont d'autres réfugiés qui les hébergent ici et les nourrissent grâce au soutien d'une association de sikhs appelée United Sikh. Parmi ces enfants se trouve le petit Ayoub, âgé de 8 ans. À la fin août, son village a été attaqué, il a donc fui avec les autres habitants.
Des gens sont arrivés dans le village, ils ont tué mes parents, ils leur ont tiré dessus, je l'ai vu. J'ai donc suivi les villageois, nous avons marché pendant 10 jours dans la jungle. Puis nous avons traversé la rivière avec des bidons en plastique. J'ai vécu à Baloukali avec une dame, mais elle est toute seule. Alors depuis 7 jours, je dors ici.
Selon l'ONU, plus d'un réfugié sur deux est un enfant et une grande partie a perdu au moins un parent. Un autre drame humain, moins visible, est en train d'émerger. Celui des viols perpétrés par les forces armées birmanes lors des attaques de villages. Human Rights Watch vient de publier un rapport qui identifie des dizaines de femmes sauvagement violées en réunion par des militaires ou miliciens dans ce qui ressemble à une pratique délibérée pour terroriser les Rohingyas. Jasmine a été victime de cette cruauté. Cette femme de 22 ans, au visage gracieux, vivait à Tulatuli dans la région de Mangdao. Le 30 août dernier, les militaires birmans encerclent ce village. Ils abattent d'abord les hommes, puis ils l'emmènent, elle et 4 autres femmes, vers une maison en bois.
Ils nous ont enfermés à l'intérieur. À ce moment, je portais encore mon bébé de 28 jours dans les bras. Ils me l'ont arraché des mains, ils l'ont jeté violemment contre le mur. Puis ils ont commencé à nous violer. Ensuite, ils ont coupé la gorge des autres femmes. Moi, ils m'ont violemment tapé derrière la tête. Je suis tombée inconsciente. Je me suis réveillée longtemps après. La maison était en feu. C'est alors que j'ai réussi à m'échapper.
Les associations craignent que des dizaines d'autres femmes aient ainsi été violées, mais il est extrêmement difficile de les identifier. Cela est pourtant urgent afin de les aider à retrouver leur équilibre psychologique. Farhana Eshita est la responsable du programme local de santé mentale dans l'association Action contre la faim, qui propose des thérapies dans les camps. Elle réagit au cas de Jasmine.
Une telle expérience va entraîner d'immenses problèmes psychologiques à la victime, depuis la dépression légère jusqu'à la dépression profonde. Je ne serais pas surprise si elle développe des psychoses, comme de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Dans ces cas, elle devrait prendre des médicaments pendant longtemps, et nous voulons vraiment éviter cela.
En comptant les réfugiés qui se trouvaient déjà sur place avant le mois d'août, cette langue de terre du Bangladesh compte maintenant plus de 800 000 Rohingyas, et un millier continue à arriver chaque jour de Birmanie. Ce surpeuplement pose de graves problèmes d'hygiène. Ce matin-là, un groupe de Rohingyas a voulu par exemple construire de nouvelles toilettes pour remplacer celles déjà remplies. Et cela leur a valu de se faire tabasser par les personnes qui vivent à côté. Une femme présente lors de la bagarre raconte.
Deux hommes ont commencé à creuser ici pour construire une nouvelle latrine. On leur a dit que ce n'était pas possible car c'est juste devant notre tente. Ça va sentir mauvais et notre sœur est enceinte. C'est très mauvais pour son hygiène. Mais ils ont dit que ce n'était pas notre terre. Les hommes ont commencé à se bagarrer. Du coup, l'un d'entre eux est tombé à terre et il est resté inconscient.
Ce genre de dispute, c'est le mazi qui doit les régler. Ce représentant des Rohingyas impose des punitions symboliques, parfois pécuniaires. Le but, c'est toutefois d'éviter d'envoyer les fautifs aux autorités bangladaises. Solidarité oblige. Cependant, la situation devient difficile à gérer, avoue le mazi de ce camp de Baloukali 2, Araf Oula.
Il y a énormément de violence dans ces camps, car ces Rohingyas ont tout abandonné dans la Rakhine. Leur esprit n'est donc pas en paix et tout malentendu prend de grandes proportions. Cette violence est ainsi le reflet de celle dont ils ont souffert et qu'ils subissent encore au quotidien. Quand 6 personnes doivent vivre dans des espaces à peine assez grands pour 4, c'est une forme de violence. La norme veut également qu'une toilette soit utilisée par 5 familles, mais ici 20 familles doivent utiliser les mêmes toilettes. Cela est une autre violence. Cependant, qu'est-ce que nous pouvons y faire? C'est notre malchance à nous, les apatrides. Nous n'avons aucun droit et plus aucune dignité.
Le Bangladesh et la Birmanie viennent de signer un premier accord qui devrait permettre de débuter le rapatriement des Rohingyas dans 2 mois. Mais il faudra savoir combien de ces réfugiés accepteront de retourner dans une région où les forces de sécurité ont essayé de les tuer.
Sébastien Farcy, dans un de ces camps Rohingyas du Bangladesh pour Un jour dans le monde. Voici Nirvana sur France Inter. Comme Azouar, on vient comme on est donc. Nirvana sur France Inter.
France Inter.
Previously. Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Esse.
Précédemment.
Previously.
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 Un jour dans le monde.
Retour sur les épisodes précédents où comment Olivier Poujade ressort de l'ombre, ceux qui ont fait l'actualité. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Fabienne.
Et cette semaine, c'est donc un ancien président américain qui est votre client, j'allais dire votre cobaye, George W. Bush.
Oui, un homme qui, disons-le, hein, Fabienne, a largement contribué au chaos dans lequel vit aujourd'hui une partie du Moyen-Orient. C'est lui qui était aux commandes le 11 septembre 2001 et c'est lui qui a organisé la riposte, l'intervention américaine en Irak en 2003, un véritable fiasco. George W. Bush, c'est le président qui a déclaré la guerre au terrorisme et à celui qui l'incarnait à ce moment-là, Oussama Ben Laden.
Je demande la justice. Il y a cette vieille formule que nous avons ici à l'Ouest qui dit « rechercher mort ou vif ».
Dead or alive. Eh bien, ce W. Bush-là, Fabienne, n'existe plus. L'homme arrogant, agressif, le va-t-en-guerre, a déposé les armes pour se mettre, figurez-vous, au pinceau, à la peinture. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau. Hein. L'Amérique connaissait déjà depuis quelques années la passion de son ancien président. Une série de toiles le représentant sous la douche, un portrait de son chien, Bonnie, ou de Vladimir Poutine lui avait d'ailleurs valu quelques railleries. Son art était qualifié de pathos et naïf, mais il a persévéré et a fini, comme il le dit, par libérer le Rembrandt qui sommeillait en lui.
Ma vie a changé radicalement après ma présidence. D'une part parce que je ne suis plus président. Parce que je suis devenu grand-père aussi. Mais la troisième raison, c'est que je suis devenu un artiste. J'ai prouvé que les vieux chiens pouvaient apprendre de nouveaux numéros.
Voilà, donc la métamorphose, on va dire.
Ah ben, totalement, hein. Et le plus incroyable, c'est que ces dernières toiles font un véritable carton. Il a sorti cette année un livre regroupant 66 portraits de vétérans de l'armée qui ont combattu sous sa présidence. C'est un best-seller. Les toiles sont exposées à sa fondation à Dallas et les anciens soldats qui ont posé pour lui affirment avoir découvert l'homme sensible qui se cachait derrière l'impitoyable président.
Il est très drôle, très étonnant, il vous surprend tout le temps. C'est quelqu'un de très authentique, il a un vrai talent. Je retrouve dans ses peintures la douleur, la culpabilité qui est en nous.
Donc la douleur, la culpabilité, est-ce qu'il n'y a pas un petit parfum de repentance quand même dans ce travail
d'artiste ? Pour moi c'est très clair, hein, très clair, mais c'est vrai que Bush n'a jamais officiellement regretté ses actions, jamais reconnu avoir peut-être commis des erreurs, mais son regard sur le monde a visiblement changé, à tel point qu'il fait partie aujourd'hui des républicains qui rejettent et condamnent la politique de Donald Trump. Lors d'une conférence organisée par son institut en octobre, George W. Bush décrit, sans le nommer, un président qui semble gouverner en se soumettant aux lobbies économiques et religieux qui l'entourent.
Le ciment de la bigoterie est en train de prendre. Nos politiques semblent de plus en plus à la merci des théories complotistes. Elles semblent même les alimenter. Et il y a des signes qui démontrent que le soutien à notre modèle de démocratie est en train de décliner.
Aux États-Unis, les éditorialistes n'en reviennent pas, Fabienne. George W. Bush est en train de regagner finalement l'estime des Américains. Sa passion pour la peinture, son discours anti-Trump sont en train d'éclipser ses deux mandats présidentiels calamiteux, éclipser aussi le débat sur sa responsabilité dans les crimes de guerre commis en Irak. Conflit qui, on le rappelle, a coûté la vie quand même à 500 000 d'Irakiens.
Voilà, c'est bien de rappeler aussi parfois quelques chiffres. Olivier Poujade, merci beaucoup. Delphine Simon est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le vrai du faux de l'Europe dans Un jour dans le monde. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Delphine, une Europe parfois déconcertante, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On reparle ce soir des normes absurdes de Bruxelles.
Oui, un thème cher à Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les Républicains. Le gouvernement vient de dévoiler cette semaine son projet de loi sur le droit à l'erreur, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de simplifier la vie des entreprises et des salariés. Pour Laurent Wauquiez, c'est une bonne idée, vu les règles imposées par les technocrates de Bruxelles.
J'étais avant-hier à Montauban, dans une entreprise qui récolte des pommes. Ils me racontaient le harcèlement administratif quotidien qu'ils ont, les difficultés à embaucher des jeunes, parce que par exemple, avec les normes européennes, les jeunes ne peuvent plus monter sur des escabeaux pour récolter les pommes.
Alors, le retour du coup de l'escabeau, si je puis dire. Alors, c'est vrai ou pas, Delphine, ces normes européennes qui interdisent à des jeunes de monter sur des escabeaux ?
Eh bien non, c'est faux. En fait, Laurent Wauquiez fait allusion à un décret très français, il date d'octobre 2013, et il liste les travaux interdits et réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans dans le monde professionnel. Ce décret, il interdit de leur faire faire des travaux en hauteur sur des arbres, il leur interdit aussi de monter monter et de démonter des échafaudages si les mesures de sécurité sont insuffisantes pour prévenir le risque de chute. L'interdiction, elle existe bien, mais nulle part le décret ne mentionne le moindre escabeau. Il avait suscité pas mal de critiques il y a 3 ans de la part des producteurs de fruits et légumes. Et du coup, depuis 2015, Laurent Wauquiez semble ne pas le savoir, le fameux décret a été modifié. L'interdiction du travail en hauteur prévoit désormais des exceptions comme l'utilisation d'échelles, d'escabeaux ou de marchepieds.
On a quand même envie de rire un tout petit peu. Bruxelles a-t-elle quelque chose à voir avec ces règles, Delphine ?
Eh bien non, en fait pas du tout. Aucun texte européen n'interdit à un jeune de monter sur un escabeau. Il existe bien une directive européenne sur la protection des jeunes au travail, une directive très ancienne, elle date de 1994, mais elle se contente d'interdire tout simplement les travaux qui comportent un risque d'accident. Nulle part il n'est question d'échelle, d'escabeau, ni même de travail en hauteur. La France a choisi de faire une interprétation très stricte de ce texte. D'autres pays ont choisi d'autres règles. Bref, la norme absurde dénoncée par Laurent Wauquiez n'est pas le fruit d'une Europe tatillonne et bureaucratique. Si je résume, c'est donc un faux pour Laurent Wauquiez.
Mais enfin quand même, Delphine, c'est vrai qu'on dénonce souvent les règles absurdes des bureaucrates de Bruxelles.
Ah oui, sauf que ces règles, elles ont aussi leur utilité. Fabienne, élaborer une seule norme européenne plutôt que d'en avoir 28, c'est un avantage pour les entreprises qui peuvent vendre et acheter leurs produits facilement dans toute l'Union européenne. Quant aux consommateurs, il leur est plus facile de comparer des produits et élaborés avec des normes identiques. Sous les feux des critiques de toutes parts, la Commission européenne a cependant lancé, elle aussi, un gros travail de simplification ces dernières années. Mais en matière de normes, la France n'a rien à lui envier, selon la mission parlementaire sur le sujet. La législation française, Fabienne, compte, tenez-vous bien, plus de 400 000 normes.
Voilà, les rois de la paperasse, donc c'est nous. Delphine Simon, merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne.